jusqu'à 13h, le podcast. Grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Ça y est, c'est l'heure du grand témoin, Jean-Baptiste Bergès. Vous allez recevoir votre grand témoin. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler démarches administratives. C'est dire qu'on a des choses à dire et on va les dire, vous allez les dire ces choses avec votre invitée, Brigitte Joyeux.
Brigitte Joyeux a remarqué que beaucoup de personnes de son entourage ne savaient pas remplir les papiers qui concernent les démarches administratives. C'est vrai que c'est parfois un long chemin du combattant, Benjamin.
C'est pas simple, c'est effectivement.
Pas simple. Et c'est pas simple de savoir où aller demander une carte d'identité, où aller demander un passeport. C'est compliqué. On ne nous l'apprend pas. Et ça, on devrait nous l'apprendre à l'école.
Oui, mais parce que ça change souvent, peut-être pour ça. Alors, Brigitte Joyeux, elle a les informations, elle va vous les donner.
Brigitte Joyeux, elle a écrit deux formidables livrets qui vous simplifient la vie. Un livret qui vous explique les démarches administratives du quotidien et un autre livret qui vous explique les démarches administratives auprès de l'état civil. Et on vous en parle aujourd'hui dans Le Grand Témoin sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, Le Grand Témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Brigitte Joyeux, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bienvenue sur Vivre FM, je suis ravi de vous recevoir, on va passer cette heure ensemble. Vous venez nous présenter deux ouvrages, on va donner des conseils à nos auditeurs aujourd'hui puisque vous avez écrit des livrets pour faciliter les démarches administratives des Français. Un livret qui s'appelle « Mes papiers et moi, les démarches administratives auprès de l'état civil » et puis un autre livret « Les démarches administratives du quotidien ». Ces deux livrets sont publiés chez Tom Pouce. Brigitte, dans la vie vous êtes éducatrice spécialisée, vous travaillez auprès d'adolescents en situation de handicap, mais il faut préciser que ces ouvrages, ce travail, vous l'avez effectué à côté de votre travail principal. Ça n'a rien à voir. Hein.
Non, enfin, il y a un lien parce que je suis éducatrice spécialisée et que je suis sensible à la relation d'aide. Mais ce travail-là concerne essentiellement des adultes qui sont dans la vie active. Et j'ai pu accompagner quelques adultes dans les démarches. Et j'ai pu voir un petit peu leurs difficultés au quotidien et... Et donc, j'ai poussé ma recherche un peu plus loin. Et donc, voilà, j'en ai fait des livrets parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il était important de pouvoir rendre service à des accompagnants, tout comme à des usagers, des personnes en difficulté, de les conseiller, de les accompagner dans ces démarches.
Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que pour certains... c'était un long parcours du combattant, parfois les démarches administratives en France.
Ah, complètement. C'est difficile. Parfois, c'est oublié. Parfois, c'est oublié parce que, en fait, certaines personnes qui ont des difficultés n'ont pas d'image mentale. Donc, elles ne se représentent pas du tout la démarche. Hein? Donc, de ce fait, ça représente effectivement la difficulté de faire la démarche. Et puis, il y a celles qui sont plutôt indisponibles et qui sont très, très, enfin, qui ont des problématiques particulières et qui ne sont pas disponibles non plus pour s'occuper d'eux. Voilà. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas la culture non plus du livre et puis de l'Internet et qui, en fait, n'ont pas accès du tout à l'information. Hein.
C'est ça. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de démarches administratives qui passent par Internet. Et, oui. Et si on ne sait pas se connecter à Internet, surfer, ça peut être problématique.
Ah bien, tout à fait. Hein. D'ailleurs, certaines personnes ne font rien pour elles-mêmes. Hein. S'il n'y a pas un accompagnant, s'il n'y a pas un conseil, elles ne font pas les démarches.
Voilà. Vous avez des anecdotes, des exemples de personnes qui ont rencontré des difficultés sur telle ou telle démarche administrative, par exemple?
Oui, tout simplement, hein, avec la carte nationale d'identité. Hein. Il y a des personnes qui n'avaient pas leur carte d'identité, et au moment où on leur demande l'heure d'achat, évidemment, ça représente un obstacle. Hein. La carte d'identité, elle est très régulièrement demandée, donc c'est vrai que si on n'en a pas une, voilà, elle n'est pas obligatoire, hein, ce n'est pas un devoir. Mais c'est vraiment conseillé d'en avoir une.
Ou le passeport. Votre fils s'est référé à vos ouvrages pour avoir un passeport.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous.
En fait, bon, vous savez, il est souvent sur Internet, mais comme je travaillais sur mes livrets, les livrets étaient à sa disposition, donc ça a été effectivement beaucoup plus rapide d'aller dans les livrets et dans le livret 2, voir un petit peu les documents qui lui étaient nécessaires pour constituer son dossier.
Ouais. Ça lui a beaucoup servi.
Oui, puis en fait, mon fils a regardé tout le travail que j'ai pu faire durant cette réalisation. Il m'a parfois même donné des conseils. Hein. Et voilà, c'est utile parce qu'en fait, ces livrets, on peut dire que pour l'information, Il s'adresse à tous les Français, pour l'information, je dis bien. Hein. Après, le support, il est vraiment fait pour les personnes en difficulté. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément de difficulté, n'a pas forcément besoin d'images pour comprendre une démarche. En revanche, celle qui a des difficultés, l'illustration est nécessaire.
Ça peut être des personnes illettrées, des personnes avec un handicap.
Tout à fait.
On va parler en détail de comment vous les avez conçus, ces livrets. Un livret qui s'intitule « Mes papiers et moi ». Il y a le premier livret, les démarches administratives auprès de l'État civil.
Oui.
Le deuxième livret, les démarches administratives du quotidien. C'est publié chez Tom Pouce Éditions. Et donc, quand on les ouvre, comment vous les avez conçus ? Beaucoup de dessins, un peu à la forme de BD aussi, avec des bulles. Alors, racontez-nous comment vous avez voulu les concevoir.
Non, en fait, je n'ai pas voulu qu'il ressemble à une BD. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, il faut que l'information, il faut que le thème contienne peu d'informations sur une page, je veux dire. Hein. Il faut que ça soit aéré. Trop d'informations sur une page, trop de dessins, c'est la confusion. Donc, il faut qu'il soit aéré. J'ai donné aussi des repères. Vous avez un cadre bleu. Mes droits et obligations, c'est dans la présentation de la démarche. Ensuite, vous avez des cadres verts qui parlent des documents. Quel est l'organisme qui donne des documents? Il est important pour la personne qui est en difficulté de lui donner des repères pour savoir qui donne le document. Parce que quand j'ai fait ce travail de recherche, je me suis aperçue que dans une préfecture, alors que j'attendais, il y avait une personne ici qui était venue chercher un acte de naissance, donc ce n'était pas le lieu puisque c'est la mairie. Il y avait une autre personne qui était venue faire son passeport. Or, la mairie, certaines mairies font les passeports, donc il y avait une confusion, si vous voulez, dans les lieux. Et puis ensuite, renvoyer effectivement au bon document, puisque là aussi les personnes sont un petit peu perdues. Le cadre orange, lui, il indique quand je remplis. Alors, vous avez un crayon rouge hein, qui signifie bien qu'il faut bien remplir le document. Voilà. Et puis, le cadre violet qui, lui, dit la démarche, en fait. Voilà. Ça, ce sont des repères tout au long des livrets, enfin, sur toutes les démarches des deux livrets.
Donc, vous donnez de nombreux repères.
Absolument.
Vous rappelez des choses qui peuvent paraître évidentes. Comme la différence entre le nom et le prénom, et pourtant c'est réel, malheureusement.
Par exemple, on va prendre des prénoms qui peuvent être des noms, Louis Martin par exemple. Un jour que j'étais en préfecture, la personne n'arrivait pas à savoir qui était le nom du prénom chez la personne qui était en face d'elle, quoi. Et donc elle a passé un certain temps avant de... Puis la personne n'avait pas de papier sur elle, de documents en fait. Et donc ça a été un petit peu difficile, quoi. Voilà. Alors, pour l'accompagnant, pour la personne qui était au guichet, hein, je parle. Hein.
Forcément.
Ouais.
Alors Brigitte Loyer, on va donner des exemples concrets à nos auditeurs. Par exemple, vous rappelez ce qu'il faut faire lorsqu'on veut se marier. On décide de se marier, l'acte de mariage.
Ouais.
Je pense que beaucoup de personnes ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire en fait.
Oui, c'est même assez compliqué.
En gros, aujourd'hui, si je vais me marier demain, je ne sais même pas où aller. Qu'est-ce que je dois faire pour l'acte de mariage? Donc, vous allez nous expliquer, Brigitte Loyer.
Sérieux?
Non, mais vraiment, à la mairie, peut-être, c'est ça?
Alors, effectivement, en fait, la personne doit se rendre à la mairie. Alors, certaines mairies, il faut prendre un rendez-vous, vous voyez, donc c'est pas donné. Si c'est une petite mairie, une petite commune, on peut certainement aller à la mairie sans prendre rendez-vous.
Mais à Paris, par exemple, on ne peut pas se pointer comme ça du jour au lendemain.
Je pense qu'il vaut mieux se renseigner tout de même avant de vous déplacer. Ensuite, vous allez rencontrer la personne à l'état civil qui va vous donner le document et qui va attendre que le document soit rempli avant de fixer la date de mariage. Parce que vous aurez, bien évidemment, des documents à donner, à rassembler pour pouvoir compléter le dossier.
Quels documents faut-il rassembler pour un acte de mariage?
Eh bien, vous avez les actes de naissance de chaque personne. Vous avez une facture concernant le lieu d'habitation. Alors, pour le coup, moi, j'ai sélectionné qu'un document, un justificatif de domicile, qui est la facture d'électricité. Pourquoi? Parce que on peut pas tout mélanger. donner plusieurs documents. C'est très difficile déjà pour les personnes en difficulté de savoir quel document donner. Donc, j'ai fixé la facture d'électricité. Tout le monde aujourd'hui, je pense, utilise l'électricité pour s'éclairer. Donc, a au moins de l'électricité dans son logement. Donc, le justificatif de domicile est ici une facture d'électricité.
D'accord. Et après, il faut donner différents renseignements.
Les cartes d'identité de chacun. Et puis, si vous n'avez pas les cartes d'identité, ça peut être le passeport. Ça peut être un titre de séjour si la personne est d'origine étrangère. Vous avez aussi est indiqué le contrat de mariage. Voilà, un certificat de mariage. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est un certificat du notaire, hein, un contrat de mariage. Hein. Vous avez des personnes qui ne connaissent pas du tout. Donc, c'est aussi un livret qui donne des informations, qui donne de la connaissance. Hein. Donc, il n'est pas, il ne concerne pas que les personnes en difficulté, qui ont des difficultés de compréhension. Hein, de...
Moi, j'ai l'impression, Brigitte Joyeux, que tous les thèmes que vous abordez dans votre livre, qui sont des thèmes censés être courants, mais personne ne nous les apprend, même pas à l'école.
Eh ben oui, c'est juste. c'est complètement juste. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça qu'il y a des lacunes, tout simplement. Et même à l'école, je ne suis pas sûre, hein, qu'on vous apprend à renseigner un document, vous voyez, à remplir un document. Et c'est pour ça que vous avez aussi aujourd'hui des personnes qui ont autant de mal à remplir des documents. Une date d'anniversaire, j'ai rencontré des personnes, des adultes, qui ne pouvaient pas me dire leur date d'anniversaire. Hein. Ce n'est pas possible. Savoir son adresse exacte, ne pas la savoir, ça existe aussi. Donc voilà, savoir où je suis née, vous avez des personnes qui ne savent pas où elles sont nées. Donc, voilà, je trouvais que c'était important de redire tout ça, quoi.
La carte de sécurité sociale aussi, il doit y avoir des difficultés pour certaines personnes de faire la demande lorsqu'on...
Alors, pour le coup, la carte de sécurité sociale n'est pas du tout abordée. Je l'ai peut-être mentionnée quelque part, mais elle n'est pas abordée.
Pour quelle raison ?
Parce qu'en fait, je me suis surtout centrée sur l'identité de la personne.
Donc ça pourrait faire l'objet de notre ouvrage, peut-être ?
Non, ça c'est... Oui, peut-être. Peut-être. Donnez-moi votre identité. C'est difficile pour une personne qui est en difficulté. Le mot identité, c'est quelque chose d'abstrait, si vous voulez. Donc, au niveau de l'image, c'est difficile à se représenter. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce livret sur l'identité. Et en fait, il est fait pour les accompagnants, parce que c'est une difficulté aujourd'hui pour les accompagnants d'avoir des supports adaptés. Ce livret, en fait, il est un livret pour les personnes en difficulté. Aujourd'hui, vous n'avez pas de livret. Enfin, écoutez, moi, je vais souvent en librairie et je m'intéresse beaucoup aux livres pour mon travail, entre autres. Et j'achète souvent des livres pour enfants, mais les jeunes peuvent me dire, c'est vraiment un peu bébé tout ça. Après, ados, ça commence à être compliqué, adultes, n'en parlons pas. Donc là, pour le coup, c'est des livrets qui sont vraiment adaptés avec la connaissance qui est nécessaire, juste ce qu'il faut, l'essentiel.
Brigitte Joyeux, restez avec nous dans un instant, la suite de cette émission. Vous êtes le grand témoin sur Vivre FM aujourd'hui et on continuera d'éclairer nos auditeurs sur les démarches administratives qui peuvent être parfois très compliquées. A tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Brigitte Joyeux témoigne aujourd'hui sur Vivre FM. Elle témoigne du parcours du combattant de certains Français lorsqu'il s'agit des démarches administratives. Et pour cette raison, vous avez choisi, Brigitte, d'éditer deux livres qui expliquent justement quoi faire pour ces démarches administratives au quotidien. Ça s'intitule Mes papiers et moi. C'est publié chez Tom Pouce. Il y a le premier livret, Les démarches administratives auprès de l'État civil. Le deuxième livret, Les démarches administratives du quotidien. Ça s'adresse à des personnes en difficulté, mais en gros à tout le monde, parce qu'on se rend compte que des démarches qui semblent simples, basiques, sont parfois pas évidentes pour tout le monde.
Ah, c'est sûr. Sur le deuxième livret, c'est pas simple du tout. Bon, j'ai abordé le recensement.
Il y a beaucoup de Français qui ne savent pas ce que c'est.
Voilà, tout à fait. Et beaucoup de jeunes surtout, parce qu'il doit être effectué avant les 18 ans. Donc je l'ai mis parce que la veille des 18 ans, même le jour des 18 ans, vous pouvez aller vous faire recenser. Bon, voilà.
C'est une démarche que chaque Français doit faire.
Oui, c'est une obligation.
On ne vient pas à vous.
C'est une obligation.
D'accord.
Et donc, elle n'est pas suffisamment donnée, cette information.
Alors, comment fait-on ? On va à la mairie, on dit « je veux me faire recenser ».
Voilà, avec le livret de famille. Et puis, la personne, soit elle renseigne le document sur l'ordinateur, soit l'adolescent remplit le document. Voilà.
D'accord.
Et donc, ça donne des droits. Enfin, des droits, c'est-à-dire que ça donne comme droit, le jour où vous passez le permis moto, on vous demande votre attestation de recensement.
D'accord, donc c'est très important. Et puis,
il n'y a pas que ça. Hein. Ce jour-là, on vous demande, enfin, quand vous passez aussi l'examen, votre bac, le baccalauréat ou peut-être, je sais pas, le BEPC, enfin, je ne sais pas. Hein, on vous demande aussi de présenter l'attestation de recensement.
Et si on ne s'est pas fait recenser, on peut se faire recenser plus tard ?
Oui.
D'accord.
Plus tard, mais c'est quand même conseillé de le faire, c'est une obligation en fait.
Avec le recensement, il y a aussi l'inscription sur les listes électorales.
Tout à fait, et puis ça, vous devez aussi faire votre journée de défense et citoyenneté, voilà.
D'accord, ce qui remplace le service militaire.
Voilà. Tout à fait.
Et tout ça, c'est pas le rôle de l'école, du collège, du lycée
Je pourrais pas dire parce que, bon, je ne sais pas trop ce qui se dit au sein de l'école, hein.
En tout cas, vous vous êtes rendu compte, pour écrire ce livre, qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas ces thèmes-là.
Ah oui, vous avez des adultes qui ne se sont jamais fait recenser, des jeunes adultes, hein, enfin, qui ne l'ont pas fait, parce que par méconnaissance, en fait. Par méconnaissance.
Comment vous avez travaillé pour ces ouvrages ? Vous avez demandé conseil aussi à des proches
J'ai beaucoup travaillé. En fait, je me suis renseignée, j'ai écouté les gens, des jeunes, j'ai écouté des adultes, leurs difficultés, leurs questionnements... ce qu'ils ne pouvaient pas accomplir. J'ai écouté les accompagnants aussi, les personnes qui sont au guichet. Voilà. C'est un travail surtout d'écoute. Bon, au début, j'ai fait les dessins. Et puis après, j'ai fait les textes.
Vous donnez des conseils aussi, Brigitte Joyeux, sur l'important du rangement des documents.
Ah oui.
Ça, c'est très important. C'est un point sur lequel on peut appuyer ici. Comment classer ces documents ?
Oui. Oui, parce que en fait, quand on vous demande... il faudra rassembler... il nous faut ci, il nous faut ça. Alors, les personnes commencent à se dire, ben oui, mais je ne sais pas si je l'ai, ce document. Moi, je ne sais pas où il est, comment je peux faire pour l'avoir, vous voyez. Donc,
oui, quand on vous demande des fiches de salaire, justement.
Oui, oui, les fiches de salaire, si vous ne dites pas aux personnes, il faut les mettre dans un dossier, ils ne savent pas où les mettre. Hein,
c'est important de les garder,
très
longtemps.
C'est très important de les garder pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on n'aura pas besoin de les classer, mais pour l'instant, il faut les classer.
D'accord. Voilà. Donc, les conseils pour ranger ces papiers, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ?
Alors, en fait, une fois que la démarche est terminée, on rassemble le document, on met le document dans un dossier, et ce dossier, il va dans un meuble, voilà. Et si on doit le ressortir, il faut faire attention de ne pas forcément donner le document. Hein. Des fois, il suffit juste d'une photocopie. C'est le cas de l'attestation de recensement, on ne la donne pas, on la fait photocopier. On peut donner en revanche un acte de naissance, mais on ne va pas donner le livret de famille, par exemple, on le fait photocopier. Il y a certains documents qu'on fait photocopier, d'autres qu'on peut donner.
Il ne faut pas les donner parce qu'après, quand vous en aurez besoin, ben, vous ne les aurez plus.
Voilà, mais c'est indiqué dans le livret. Vous avez une petite personne, enfin la personne, ici c'est la famille Lanneau, qui raconte tout, si elle doit faire la photocopie ou pas, voilà.
Vous évoquez aussi des thèmes, des phénomènes de société, comme le divorce, l'adoption, ça peut être aussi des choses... auxquelles
alors,
les personnes sont confrontées ?
J'évoque de façon très, très simple, hein, parce qu'en fait, c'est indiqué dans... Enfin, c'est même pas indiqué, si, dans le livret de famille, en fait. Hein, dans le livret de famille, mais ça fait pas l'objet d'un thème, en fait, hein, l'adoption. Hein. C'est juste évoqué comme ça, tout comme le PACS, tout comme l'acte de décès, vous voyez, qu'on soit au courant un petit peu.
Alors le livret de famille, justement, c'est très important.
Bah oui, je trouve.
Et beaucoup n'ont pas de... C'est possible de ne pas avoir de livret de famille ou à quel moment on a un livret de famille, d'ailleurs ?
Alors, on a un livret de famille quand on se marie, mais on peut avoir un livret de famille sans être marié, c'est-à-dire le jour où un enfant arrive. Voilà. Après, je n'ai pas trop de renseignements pour les personnes qui se paxent. Franchement, je ne le sais pas. Je ne me suis pas renseignée, vous voyez. J'ai étudié le mariage et puis, pour le coup, je suis un petit peu faiblarde sur ce côté-là.
Du coup, le livret de famille, on vous le donne lorsque vous vous mariez, c'est ça ?
Voilà, marié, puis vous n'êtes pas marié, mais un enfant arrive. Donc, il est indiqué sur le livret de famille.
Et en quoi c'est important, le livret de famille ?
Eh bien, en fait, il raconte la composition de la famille, avec les dates de naissance. Et puis, on peut dire aussi que le livret de famille raconte un peu l'histoire de la famille, je trouve. Enfin, on peut... Dedans, vous avez quand même le décès, vous avez la naissance, vous avez le mariage. Donc, il peut y avoir des surprises. Des gens peuvent découvrir des surprises. Par exemple, la mort d'un enfant qui n'avait pas du tout été parlé par les parents. Ou les enfants découvrent ça aussi un peu plus tard, tardivement dans la vie. Enfin, voilà. Ça peut dire des choses. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'aller voir dans le livret de famille, des fois.
À chaque étape de notre vie, on a besoin de papiers,
de documents,
de choses administratives. L'acte de décès aussi, c'est très important. Lorsqu'on perd un proche, que faire ? Quels papiers renvoyer ?
Alors là, j'ai étudié l'acte de décès parce qu'en fait, c'est un thème qui est complètement écarté. En fait, la mort, c'est quelque chose qui peut parler. Et je trouve que c'est dommage parce que bon, voilà, ça fait partie de la vie. Enfin. Et donc là, on a des documents aussi. Hein, l'acte de décès, il existe bien. Et donc, on peut le demander. Il peut être demandé dans le cas de démarches. Voilà. Surtout à la CAF, peut-être à la Sécurité sociale.
C'est un sujet qui reste tabou encore.
Oui, je trouve, oui.
Pour quelle raison ?
Alors là, écoutez... Parce que je crois que ça fait partie peut-être de notre culture, tout simplement. Où la...
Parce que la mort fait peur, certainement. Alors que...
Oui, et puis peut-être qu'on n'ose pas l'aborder avec les jeunes adultes.
Il y a des points importants à remplir dans l'acte de décès qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que c'est important d'expliquer la différence
entre
la crémation, l'inhumation, tout ça, est-ce que ça a son importance ou pas ?
Bon, moi, je trouve qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Si ce sont des personnes qui sont vulnérables, fragiles, qui ont une histoire difficile, bon, c'est plutôt à l'accompagnant de savoir s'il va aborder ce sujet. Moi, je pense. Hein. Voilà. Personnellement, je ferai attention à la personne que j'ai en face de moi. Si elle me pose la question, d'accord, mais si elle ne me pose pas la question, je vais pas forcément aborder le sujet.
Alors Brigitte Joyeux, vos ouvrages sont à destination de tous les Français, des personnes un peu plus en difficulté aussi, et puis vous rappelez que les personnes handicapées ont les mêmes droits et devoirs que tout le monde, et vous rappelez des notions comme la tutelle par exemple. Beaucoup ne savent pas ce que c'est.
Alors, la tutelle, il existe la curatelle et la tutelle. Alors ça, je l'évoque surtout dans le livret 2. Par exemple, quand quelqu'un fait la démarche pour avoir un chien de première ou deuxième catégorie. Donc effectivement, pour les personnes qui sont sous tutelle, elles doivent faire la démarche auprès du juge des tutelles. Après, dans le cas de la curatelle, j'en ai pas entendu parler. Mais pour la tutelle, c'est sûr.
Et auprès de qui se renseigner justement ?
Juge des tutelles.
Juge des tutelles directement.
Elles doivent avoir l'autorisation pour adopter un chien. Enfin, pour avoir un chien de première ou deuxième catégorie, je dis bien.
Hein. D'accord. Est-ce que vous avez eu des retours suite à la publication de
ces
deux livrets ?
Non, c'est trop récent. Il a été publié en mai. Et puis, il faut dire que les livrets, quand je suis allée en librairie, je ne les ai pas vus forcément à leur place.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que, en fait, je crois que les libraires ne savent pas trop où les mettre.
Ça vous fait rire ?
Oui, parce que en fait, je les ai vus en droit, je les ai vus en famille, je les ai vus en enseignement, je les ai vus en pédagogie, je les ai vus en pratique. Enfin, je les ai vus un petit peu partout et peut-être pas à leur place.
Alors, et ce serait où leur place, d'après vous ?
Moi, je le mettrais plutôt en pratique, livre pratique, puisque ce sont des démarches administratives. Voilà. Donc, j'encourage les auditeurs à demander aux libraires où ils sont situés, parce qu'on peut les retrouver soit dans le rayon droit, où ils dénotent un petit peu, en fait, voilà. À côté des gros livres rouges.
En tout cas, on les trouve dans toutes les librairies. C'est publié chez Tom Pouce Éditions. Ça s'intitule « Mes papiers et moi ». Vous avez deux livrets. Le livret 1, « Les démarches administratives auprès de l'État civil ». Le livret 2, « Les démarches administratives du quotidien ». Brigitte Joyeux, restez avec nous. On continue de parler de tout ça dans la troisième partie de cette émission. Émission « Le grand témoin » sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, « Le grand témoin ».
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Brigitte Joyeux, pour « Le grand témoin », aujourd'hui, vous venez nous présenter vos deux livrets que vous avez écrits pour faciliter un petit peu les démarches administratives des Français. C'est vrai que parfois, c'est un long parcours du combattant. Il faut faire quand même la différence entre les difficultés à remplir les papiers et la phobie administrative, parce que là, c'est un peu à la mode de parler de phobie administrative, c'est pas la même chose, hein.
Non, mais je pense que... Enfin, je pensais même pas à la phobie. Hein.
C'est même une excuse, même, ceux qui disent « j'ai la phobie des papiers ».
Oui. C'est... Enfin, bon, personnellement, il n'y a pas à avoir de phobie hein, pour remplir des documents. Hein. On est obligé de le faire, de toute façon. Après, certaines personnes appréhendent le monde extérieur. Donc, c'est un peu différent. Hein. Là, je ne parle pas de la phobie administrative. Hein. Je parle des personnes qui ont peur de l'extérieur et qui auront du mal à sortir et à aller vers les organismes pour faire des démarches, voilà. Donc ça concerne pas beaucoup de... Enfin, je ne pense pas que ça concerne beaucoup de personnes.
Vos ouvrages s'intitulent « Mes papiers et moi », c'est publié aux éditions de Tom Pouce. Il y a le livret 1 qui concerne les démarches administratives auprès de l'État civil, hein, des situations qui semblent basiques, mais pourtant qui sont difficiles pour beaucoup de Français. Aller chercher un acte de naissance, un acte de décès, un livret de famille, un acte de mariage...
Aller chercher un acte de naissance, il faut aller le chercher à la commune de l'endroit où on est né. Hein. Donc, c'est plus la méconnaissance, finalement, de la démarche qui rend la démarche difficile, finalement. Je ne sais pas où je vais prendre l'acte de naissance. On est un peu perdu, on est en manque de repères, voilà. Donc, la personne, elle a besoin d'être effectivement guidée, hein, conseillée.
Aujourd'hui, de plus en plus de démarches administratives se passent sur Internet. Selon vous, est-ce que ça facilite les choses ou pas du tout?
Moi, je trouve, personnellement, je ne suis pas pour. Hein. Je trouve que c'est bien de démarcher, d'aller à la mairie et de faire la démarche, d'avoir ce contact avec les personnes de la mairie. J'aime cette proximité. Hein, et puis, ça permet d'aider la personne, parce que sur Internet... Certes, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les jeunes peuvent accéder à Internet, mais après, aller remplir un document, c'est facile pour écouter de la musique, regarder un film, mais remplir un document sur Internet, c'est à mon point de vue autre chose.
Rien ne vaut le dialogue.
Et absolument.
Puis surtout, peut-être le conseil absolument. Qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est de ne pas hésiter à poser des questions,
voilà.
Même si on ne sait pas ce que c'est une carte d'identité ou un acte de naissance. Ou...
Tout à fait.
Il ne faut pas avoir peur.
Il faut rechercher de l'aide, demander conseil à la mairie, demander aussi conseil aux personnes qui nous accompagnent dans le quotidien. Ça peut être les CCAS, ça peut être la mission locale, ça peut être des centres spécialisés hein, comme les ZAT. Ça peut être, il y a plein de lieux hein, où les personnes peuvent se faire accompagner par des adultes. Qui savent.
Les démarches administratives auprès de l'État civil, ça concerne le livret 1. Et puis le livret 2, c'est plutôt les démarches administratives du quotidien,
oui.
Telles que comment inscrire son enfant à l'école. Ça peut être une problématique pour les jeunes parents qui n'ont jamais été confrontés à ça. L'école maternelle, par exemple.
Même, voilà, c'est... tout simplement l'inscription à l'école maternelle. Voilà, je parle de ça, comment on fait cette démarche. Et puis, parce qu'il y a quand même pas mal de documents à fournir. Hein. Pour le coup, il y a des documents qui sont en lien avec la CAF. Ce que j'ai aimé aussi travailler dans ce livret, c'était quand même les élections. Parce que quand vous allez sur un site, voilà, on va vous dire les élections municipales, les élections régionales, les élections... Mais en fait, ça n'a strictement pas de sens.
C'est-à-dire ?
Parce qu'en fait, les élections municipales, les personnes qui sont en difficulté de compréhension ne savent pas trop à quoi ça se réfère. Régional, et avant quand on disait...
Cantonal.
Cantonal, alors c'était pire hein, pour le coup. Donc c'est bien que ça soit devenu élection départementale. Ils retiennent surtout les élections présidentielles. Voilà, c'est quand même assez bien retenu. Mais législatif, à quoi ça renvoie, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. européenne, c'est assez compliqué aussi. Quoi.
Donc ça, c'est aussi votre mission de les informer. Alors, sur leur rôle, leur droit aussi de voter, bah, leur devoir.
Moi, j'ai surtout raconté un petit peu comment se passait le vote. De dire que il fallait écouter un petit peu les candidats, comment ça s'appelait quand ils faisaient des propositions, d'écouter. Il y avait plusieurs façons d'écouter les candidats, et puis après comment on pouvait préparer ses documents pour aller voter, comment pouvait se passer le vote, l'importance de voter pour des idées qu'on a soi, pas forcément écouter les idées des autres. Voilà. J'ai raconté sur tout ça parce que je ne l'ai pas vu quelque part, ça, je ne me souviens pas de l'avoir vu.
Brigitte Joyeux, est-ce que vous donnez des conseils aussi pour souscrire un contrat chez un assureur ou pour aller à la banque ou
Non, là, il faudra attendre un deuxième livret.
Ah, ça pourrait être un troisième livret alors.
Oui, plutôt un troisième.
Non, ça peut être des situations aussi dans lesquelles les Français ne savent pas comment.
Oui, c'est compliqué là. C'est vraiment compliqué.
Donc un troisième livret peut-être.
Peut-être.
Vous avez envie d'écrire encore, enfin de.
Oui,
de...
oui, ouais. Bien sûr, il y a quelque chose qui est en place déjà et que je ne parlerai pas ici.
D'accord. Alors on va donner maintenant la parole à nos auditeurs. Ils ont été quelques-uns à vous envoyer des questions.
Ça c'est gentil.
C'est l'heure des questions.
Je vous remercie.
Des questions des internautes. Alors, on a une première question de Marie qui nous écoute dans le 11e arrondissement de Paris. Elle vous demande quelles sont les personnes qui vous ont aidé pour ce livre.
Alors, je remercie Marie pour sa question. Donc, je vais citer. D'abord, j'ai travaillé avec Pierre Camarata. Enfin, il m'a accompagnée tout au long du projet. Pierre Camarata est sociologue de formation et chargé de mission à la PJJ de Roubaix. Police judiciaire jeunesse. Après, Ludivine de Souza, c'est une personne qui fait des études de philo. Actuellement, elle est en formation d'infirmière. Bernadette Tessier, c'est une personne qui est une personne de confiance, une très très bonne amie qui m'aide, avec qui j'ai des échanges. Voilà, elle a une expérience de la vie. Et puis Sylviane Tessier, qui est une psychologue, tout simplement, voilà.
Donc ça a été un travail d'équipe quand même.
Voilà, tout à fait, d'échanges.
Et chacun a donné aussi son expérience.
Tout à fait.
Ça, c'est important, oui. pour écrire ce genre d'ouvrage.
Voilà, j'ai eu pas mal d'échanges avec Pierre Camarata, et puis avec Bernard Tessier et Sylviane Tessier. Ludivine de Souza, je lui ai soumis... comme ça, je lui montrais, je voulais avoir un petit avis par rapport à ce qu'elle pouvait penser des livrets. Donc voilà, elle était emballée.
On a une autre question, Brigitte, de Patricia, qui nous écoute dans le 12e arrondissement. Elle vous demande si les personnes en situation de handicap mental ont du mal avec les démarches nécessaires pour le permis de conduire.
Ah oui, 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 tout à fait. Parce que, en fait, bon, elles sont très motivées pour passer le permis. Et après, il faut pouvoir réussir les épreuves. C'est surtout ça. La démarche, elles vont à l'auto-école, mais après, c'est surtout passer les épreuves qui est compliqué. Bon, les épreuves, il y a certaines épreuves qui sont adaptées. Je crois que, un adulte me racontait qu'en fait, il pouvait bénéficier d'un certain temps pour les réponses. Voilà. J'ai pas plus d'informations là-dessus.
Autre question de Éric Paris 3e, il vous demande comment vous avez réussi à expliquer simplement les démarches liées à un décès, puisque ce qui sont des démarches difficiles.
D'abord, j'ai demandé, je suis allée voir déjà dans les actes de décès de la famille. Voilà, je me suis renseignée autour de moi, comment ça fonctionnait. J'ai demandé aussi à la mairie, je suis allée voir sur servicepublic.fr aussi les démarches. C'est surtout servicepublic.fr avec lequel j'ai beaucoup travaillé quand même. Pour prendre des informations, et puis après je suis allée quand même me renseigner une fois à la mairie pour savoir, pour vérifier vraiment, valider les informations que j'avais, tout simplement. Ouais.
On a une question de Nadia de Torcy qui vous demande quelles sont les démarches à effectuer auprès de la CAF pour justement avoir une aide.
Je ne pourrais pas répondre à Nadia, non. Pour l'instant, je n'ai pas fait de travail par rapport à la CAF.
D'accord.
Non.
Ce sera l'objet d'un
peut-être.
Prochain, peut-être.
Ouais.
Mais ce qui est encore important de dire, c'est de se déplacer, d'aller peut-être demander à l'ICAF.
Oui, absolument. Il faut absolument que les auditeurs se déplacent, puis demander. Il ne faut pas hésiter. Hein. La sécurité sociale et la CAF, je n'ai pas abordé.
D'accord. Vous voyez, c'est des thèmes qui reviennent. Peut-être que ça va vous...
Oui. Là, j'ai mis l'accent surtout sur la mairie et puis l'auto-école, puisqu'à 18 ans, les jeunes vont vers l'auto-école. Certains ont leur permis de conduire, d'autres pour qui c'est plus difficile. Voilà, hein. Donc c'était important de le faire parce que c'est quand même, vous avez vu le dossier, quand on le constitue, on vous demande quand même...
Beaucoup de choses, ouais.
Pas mal de choses, voilà.
Dernière question de Lydie de Paris 13e. Est-ce que les personnes en situation de handicap mental ont du mal à comprendre ce qu'est la reconnaissance d'un enfant?
Ah oui, dans l'acte de reconnaissance.
Oui, c'est ça.
Ah oui, tout à fait. Mais non, mais je pense que beaucoup ne savent pas que ça existe.
Ah bon?
C'est assez ignoré, je pense. C'est pas comme l'acte de naissance, parce que ça se parle, l'acte de naissance. Alors que l'acte de reconnaissance, personnellement, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec deux adultes que je ne sais pas.
On peut expliquer du coup ce que c'est la différence avec l'acte de naissance?
Ah ben, l'acte de reconnaissance, c'est le couple n'est pas marié et donc le papa va reconnaître l'enfant avant l'arrivée de l'enfant, tout simplement. Hein, et avec l'accord de la maman, voilà, il reconnaît que l'enfant que madame attend, bien, c'est bien lui le père. Voilà. Donc ils vont à la mairie, ils donnent leur carte d'identité, il y a un document qui est réalisé par l'état civil pour dire que l'enfant à naître, à venir, eh bien, le père est, voilà, est monsieur, et, enfin, il y a l'identité du monsieur, et puis, voilà. Pour la dame, c'est plus facile.
Avant de se quitter, Brigitte Joyeux, une dernière question de Lucien, qui nous écoute dans le 10e arrondissement de Paris. Il vous dit, moi, j'ai perdu mon carnet de santé. Est-ce qu'on doit vraiment le garder à vie, le carnet de santé?
Bah, c'est bien, moi, je trouve, de garder son carnet de santé, oui, absolument. Mais alors, après, je ne l'ai pas du tout abordé dans les démarches.
Toujours la même question.
La santé, ça concerne la santé, je n'ai pas abordé ni la sécurité sociale ni la CAF.
Bon, bah, on espère que ce sera l'objet d'un livret 3. En tout cas, je rappelle que vos ouvrages s'intitulent « Mes papiers et moi ». Le livret 1, ce sont les démarches administratives auprès de l'État civil.
Ouais.
Le livret 2, les démarches administratives du quotidien. C'est publié chez Tom Pouce et on le retrouve dans toutes les librairies.
Ouais, c'est gentil. Et puis, je voudrais remercier encore une fois les personnes qui m'ont accompagné durant ce projet. Voilà. Et puis, je souhaite une bonne lecture aux auditeurs et je les remercie pour les questions.
Merci Brigitte Joyeux.
Merci
au revoir.
Jean-Baptiste.
Vivre FM, podcast.